Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Dans la collection La lettre du psy, le stress, comment le gérer sainement, par Jean Garneau, psychologue. Introduction.
Il y a 40 ans, le mot stress commençait à peine à se répandre. Maintenant, c'est une réalité que plusieurs considèrent comme un aspect normal de la vie moderne. Le stress est le lot quotidien d'une majorité de personnes dans leur travail, mais il atteint également les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Selon l'American Institute of Stress, ce problème est à l'origine de 75 à 90% des nouvelles consultations médicales et de 60 à 80% des accidents de travail. Les coûts reliés au stress seraient plus élevés que tous ceux de toutes les grèves mises ensemble. Absentéisme, perte de productivité, rotation de personnel, accidents, frais médicaux et légaux directs, assurances et compensations. Et cette situation s'aggrave d'année en année. On ne peut plus ignorer le stress ou simplement le tolérer en attendant que la situation devienne moins exigeante. Les pressions ne disparaîtront pas. Elles font partie de notre vie quotidienne normale. Il faut maintenant apprendre à gérer notre stress. Pour y parvenir, il faut comprendre d'où vient le stress, quels facteurs le provoquent et quels mécanismes l'engendrent. En nous appuyant sur cette compréhension, il nous devient possible de savoir ce que nous pouvons faire pour empêcher les pressions de toutes sortes de provoquer chez nous un stress chronique et le cortège des maux physiques et psychiques qui viennent à sa suite.
Qu'est-ce que le stress ?
Le stress psychologique est l'état de tension chronique, à la fois physique et psychique, qui découle d'une façon inadéquate de gérer la pression psychique pendant une période prolongée. Plusieurs ingrédients sont nécessaires pour créer un stress. 1. Une situation comportant de la pression psychique. 2. Pendant une période prolongée, autrement il ne s'agira que de tensions passagères. 3. Une façon inadéquate de réagir à cette situation. Il ne sera pas question ici de stress post-traumatique ni de stress physique qui sont des réalités d'un autre genre dont les causes et les solutions sont différentes. C'est uniquement le stress psychologique classique que nous étudierons.
Paul est journaliste à la radio. Chaque jour, il doit choisir le sujet de son article, faire des recherches nécessaires, écrire sa chronique, faire toutes les vérifications ou corrections nécessaires et la lire en ondes à 16h32. C'est le cycle normal de sa journée de travail, quand tout va bien. La situation idéale pour souffrir de stress. Gisèle, elle, est à la fois mère de famille, a deux enfants, épouse d'un gestionnaire dont l'entreprise fait face à des difficultés et coordonnatrice d'un groupe de travail dans un organisme de santé. Chaque jour, elle veille à nourrir sa petite famille avant de se rendre à son travail. Son conjoint se charge de conduire le plus jeune à la garderie, mais c'est elle qui doit aller le chercher en fin de journée. Elle a beaucoup de difficultés à tolérer les sauts d'humeur et les caprices d'un des membres de son équipe au travail, les résultats scolaires médiocres de sa fille aînée et le manque de disponibilité de son conjoint qu'elle trouve trop accaparé par son travail. Le soir, lorsque tous ont mangé et que les enfants sont enfin couchés, elle se retrouve complètement épuisée. Les jours où tout se déroule normalement, quand personne n'est malade et qu'il n'y a pas de grève ou de rumeurs de mise à pied, c'est sa vie normale. Et qui lui reprocherait d'être stressé ?
Paul et Gisèle sont-ils stressés ? Ils sont sûrement dans des situations assez contraignantes pour le devenir. Les pressions qu'ils subissent sont fortes et elles font partie de leur mode de vie habituel. Il ne manque que le troisième ingrédient, la réaction inadéquate à la pression. C'est cette façon d'agir qui fait toute la différence. Paul trouve sa vie passionnante. Il aime écrire, faire des recherches, rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles choses. Il aime également l'intensité des dernières minutes avant de prendre le micro, les corrections ou les ajouts à la volée en direct sur les ondes. Paul ne souffre pas de stress et on ne détecte pas chez lui les troubles et les maladies caractéristiques des gens stressés. Mais une autre personne pourrait facilement, dans les mêmes circonstances, souffrir d'un stress considérable et destructeur. Gisèle a beau être dans une situation encore plus exigeante, elle ne présente pas les symptômes typiques du stress, nervosité, migraine, insomnie, troubles digestifs, difficultés de concentration, irritabilité, agitation, palpitations, maux de dos, troubles de mémoire. Gisèle a exactement le genre de vie qu'elle désire, une vie pleine et captivante où elle s'épanouit dans tous les domaines importants pour elle. Bien sûr, elle aimerait avoir plus de temps libre, seule avec son mari, et passer plus de temps avec les enfants. Elle tente de compenser un peu pendant le week-end, et elle considère les vacances en famille comme une priorité absolue. Comment est-ce possible? Ces personnes ont une vie tellement stressante comparativement à d'autres.
Maurice, par exemple, occupe un poste professionnel dans un des plus importants ministères, avec la sécurité d'emploi et tous les bénéfices marginaux qui le protègent contre les imprévus. Malgré tout ça, il souffre de stress. Il dort mal, il fait de plus en plus des erreurs, d'inattention au travail, sa digestion est difficile, il se ronge les ongles, attrape toutes les grippes et fait fréquemment des sauts d'humeur qui l'étonnent lui-même. En fait, Maurice est rongé et hanté par son conflit avec son patron. Il se rend au travail à reculons, rumine toute la journée ses insatisfactions et ses projets de vengeance. Toute sa vie est empoisonnée par ce conflit. Il est distant avec ses collègues, irritable avec ses enfants, belliqueux avec son épouse. Il s'en prend même à son chien. Au bout du compte, ses relations avec les autres sont devenues tellement mauvaises que sa conjointe pense sérieusement au divorce. Ce qui, évidemment, n'améliore pas la situation de Maurice. Quelle pression engendre le stress ?
La pression psychique nécessaire pour engendrer le stress est une réaction psychophysiologique devant une urgence. Trois genres de causes peuvent provoquer cette réaction d'urgence. 1. Les changements rapides, positifs ou négatifs. 2. Les menaces ou les dangers que nous rencontrons, objectivement, fondés ou non. 3. Et notre impression, justifiée ou non, de devoir réagir rapidement à la situation. Lorsque nous sommes dans une situation d'urgence, notre organisme se mobilise intensément pour être à même d'y faire face adéquatement. C'est la sécrétion d'adrénaline qui permet de rendre instantanément disponibles les ressources de notre organisme. Elle augmente l'acuité de nos sens et nos perceptions, la rapidité de nos réflexes et la force de nos muscles. L'exemple le plus révélateur de cette situation d'urgence, c'est celle où on est sur le point d'avoir un accident de la route à cause d'un danger qui survient à l'improviste. Instantanément, nous voyons plus clair et nous réagissons plus rapidement pour éviter la collision. Mais il arrive souvent que le danger soit moins soudain et moins directement évident. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on craint que quelqu'un nous attaque ou nous enlève quelque chose d'important à tout moment. Du fait que le danger est permanent, toujours imminent, mais jamais écarté, il conduit plus facilement au stress chronique. C'est ce qui se passe dans le cas de Maurice. Sa relation avec son patron est fondamentale pour lui, mais il ne se passe rien de bien grave. Toute la pression vient de l'appréhension et de l'anticipation.
La réaction naturelle.
Cette violente mobilisation générale déboucherait normalement sur une action vigoureuse qui utiliserait les ressources rendues disponibles par la décharge d'adrénaline. Selon la situation et les décisions prises sur le moment, cette action serait une fuite ou un combat. On agirait pour éviter le danger qui nous menace ou pour combattre l'obstacle qui se dresse devant nous. L'action vigoureuse rétablit l'équilibre psychophysiologique et entraîne une sensation de bien-être et de satisfaction. Subjectivement, on éprouve un plaisir lié à l'intensité de ce que nous avons vécu. La fatigue et le besoin de récupérer apparaissent naturellement ensuite pour compléter le cycle. On ressent alors ce qu'on appelle une bonne fatigue. Dans la mesure où ces suites naturelles peuvent avoir lieu, le stress chronique destructeur est impossible. On parle alors de stress positif, ou plus communément d'une vie excitante. Certaines personnes deviennent même accrochées à l'adrénaline. Ces moments de mobilisation intense, accompagnés de peur et d'actions vigoureuses, deviennent leur principal moyen de se sentir vivante. Ce phénomène est, par exemple, une dimension importante de la passion du jeu ou de la pratique des sports extrêmes. Par contre, si le passage à l'action n'a pas lieu, les risques de souffrir de stress augmentent considérablement. C'est alors qu'on peut parler d'une gestion inadéquate de la pression. Une seule expérience ne suffit pas à engendrer un stress chronique. Il faut une répétition fréquente de cette pression mal gérée.
La gestion inadéquate de la pression.
En examinant la façon dont les personnes stressées réagissent à la pression inhérente à leur situation, on peut repérer deux défauts fondamentaux et des facteurs qui aggravent le stress. Les deux défauts sont des façons inadéquates de réagir à la situation qui engendre la pression. Les facteurs aggravants sont plutôt liés aux caractéristiques de la situation.
1. Les façons inadéquates de réagir.
Comme nous l'avons vu précédemment, la mobilisation générale de l'organisme en situation d'urgence conduit naturellement à une action de grande intensité qu'elle sert précisément à rendre possible. La première erreur que commet la personne stressée, c'est d'inhiber cette action que la situation d'urgence rend nécessaire.
Inhibition de l'action.
Pour diverses raisons, dont certaines sont bonnes, la personne stressée se retient d'agir, en atténuant l'intensité de son action ou en lui imposant des limites qui forcent l'action à demeurer en suspens. Souvent, elle va plus loin, en arrêtant son action, en la remplaçant par une complète inertie. Parfois aussi, elle cherche à dissimuler ses réactions. Elle s'efforce de demeurer inexpressive ou d'éliminer l'intensité de ses réactions. Les motifs de cette inhibition volontaire sont très variables et souvent, ils sont pertinents. Au moins en partie. Mais quelles que soient ces raisons et leur pertinence, cette inhibition transforme en tension, en malaise, en angoisse et en effet physique indésirable l'énergie qui aurait dû servir à l'action. Lorsque la situation d'urgence ne dure pas, cette inhibition a peu de conséquences. Mais s'il s'agit d'une situation qui se répète souvent ou qui dure longtemps, cette retenue générale devient intolérable et on ajoute bientôt une deuxième forme d'inhibition à la première pour rendre celle-ci plus efficace.
Neutralisation de l'information.
Lorsque la situation d'urgence dure longtemps ou se répète souvent, la personne stressée en vient vite à tenter d'éliminer la réaction d'urgence elle-même. Pour être capable de continuer à endurer la situation, elle refuse ses propres réactions et s'efforce de les éliminer de sa conscience. Elle tente alors d'ignorer les indices qui devraient l'informer sur sa situation, ses sensations et ses émotions. Elle s'efforce aussi de tolérer l'anxiété presque permanente qui résulte de ce refus de ses réactions. Plus souvent encore, la personne entreprend en outre de se dissimuler son anxiété par toutes sortes de moyens indirects, alcool, travail compulsif, somnifère, anxiolytique. En agissant ainsi, elle perd cependant les moyens qui pourraient la conduire à des solutions.
2. Les facteurs aggravants. La durée du déséquilibre.
Ce premier facteur n'est pas seulement aggravant, il est aussi nécessaire à la création du stress. C'est la durée du déséquilibre provoquée par la situation d'urgence mal gérée. Chaque personne est capable de réagir adéquatement à une situation d'urgence. Notre organisme nous amène à nous mobiliser rapidement et à agir efficacement dans de tels cas. Mais il faut que cette urgence ait une durée limitée et débouche sur une action qui utilise l'énergie disponible et rétablisse l'équilibre. Autrement, les phénomènes sains de mobilisation deviennent dangereux. Peu à peu, on cultive une intolérance aux situations de tension. Cette allergie devient de plus en plus forte si on ne trouve pas de solution réelle. Elle débouche éventuellement sur des lésions physiques. Celles-ci ont tendance à affecter plus particulièrement les systèmes digestifs, cardiaques et cutanés, privilégiant chez chaque individu le plus vulnérable des trois.
Les conflits interpersonnels.
Un deuxième facteur a souvent pour effet d'aggraver et d'accélérer les effets nocifs du stress chronique. Il s'agit des conflits interpersonnels. Ceux-ci font partie des facteurs stressants connus depuis longtemps. mais il semble avoir une importance particulière qui augmente l'effet négatif de la tension mal gérée. Il faut comprendre que les conflits interpersonnels durables peuvent être psychologiquement très menaçants, tout en ne favorisant pas une action vigoureuse qui permette de rétablir l'équilibre. Souvent, nous croyons qu'il vaut mieux contenir et cacher nos réactions intenses face à une personne avec qui nous avons un tel conflit. Ce serait lui donner des armes ou lui reconnaître un pouvoir que de réagir ouvertement avec toute l'intensité qui nous habite. Cette intensité ne peut s'exprimer et nous prenons exactement les décisions qui nous font déboucher sur le stress. De plus, les relations interpersonnelles constituent un bon moyen de rétablir notre équilibre. Nous confier à un ami, lui exprimer nos réactions, discuter avec lui de nos options sont des moyens privilégiés pour gérer les situations.